aviez intitulé « Maréchal, les voilà ». Vous écoutez France Culture, il est 17h. C'est à présent l'heure du débat. L'antenne est à vous, Julie Clarigny et Brice Couturier, pour l'émission en direct du Grain à Moudre.
Merci Pierre Chevalier. Aujourd'hui, les emplois de demain, surqualifiés ou sous-qualifiés.
Moudre.
Julie Clarigny.
Brice Couturier.
Il y a des prophéties toutes fraîches encore à nos oreilles qui commencent à résonner d'un écho assez amer. Souvenez-vous des prévisions pleines d'optimisme qui ont marqué le passage à l'an 2000. Demain, chantions-nous en chœur, demain, nous serons tous des nomades surqualifiés, connectés en permanence à une multitude de réseaux numériques et profitant des exaltantes opportunités de revenus et de consommation offertes par la mondialisation. Demain, les anciennes puissances industrielles se reconvertiront dans les tâches nobles et génératrices de fortes valeurs ajoutées, comme la finance, la conception de nouveaux produits, le design, le luxe, les industries du divertissement. Elles abandonneront les peines de la production d'objets matériels plus rentables aux travailleurs des nouveaux pays industrialisés. Eh bien, la décennie n'est pas encore achevée que nous avons compris que ce scénario rose n'est pas celui qui a le plus de chances de se produire. L'Inde forme chaque année autant d'ingénieurs que toute l'Union européenne. Le programme 863 d'investissement dans les technologies de pointe a déjà doté la Chine d'une avance dans des domaines aussi stratégiques que les biotechnologies, les semi-conducteurs, les lasers. Dans les ex-pays industriels, les anciens cols bleus de l'industrie réunis sur de vastes plateaux d'emploi, qui étaient dotés d'un fort pouvoir de négociation, ont vu leurs usines fermer les unes après les autres. Et en échange, ils se sont vus offrir des emplois précaires, déqualifiés, dans les services. Ces services, les grandes entreprises s'en sont débarrassées en les externalisant auprès de PME minuscules et insécurisantes. Il y a 40 ans, un ouvrier qualifié chez Renault pouvait faire vivre sa famille. Les nouveaux ouvriers des services survivent au jour le jour au bord de la misère. Du coup, les seules stratégies qui apparaissaient crédibles face à la mondialisation, celles qui misaient sur la formation tout au long de la vie, l'adaptation continue de la main-d'œuvre aux nouveautés de la technologie, eh bien ces stratégies semblent prises en défaut. Les Anglais eux-mêmes, qui avaient particulièrement misé sur ces phénomènes, commencent à déchanter en observant combien de brillants étudiants végètent à présent dans la restauration. En France, les diplômés se ruent vers les emplois de la fonction publique, même les moins bien rémunérés. Alors, notre emploi demain a-t-il une chance de ressembler à celui de ces consultants réclamés à travers le monde pour leurs compétences constamment remises à jour, ou bien à celui de ces salariés épisodiques des sociétés de services, comme le nettoyage ?
On en débat aujourd'hui en compagnie bien d'économistes. D'abord, Pierre Veltz, qui est professeur à l'École des Ponts et à Sciences Po, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, Le Nouveau Monde Industriel, qui était paru chez Gallimard, et donc une réédition augmentée est sortie cette année en 2008, donc Le Nouveau Monde Industriel. Et puis, plus récemment, au Seuil, La Grande Transition, la France dans le monde qui vient, donc son dernier essai. Nous sommes également en compagnie d'Étienne Vasmeur, qui est professeur d'économie à Sciences Po. Il est aussi chercheur à l'OFCE. Il est membre du groupe prospectif du Conseil d'analyse stratégique France 2025 et il tient un blog. Attention, Vasmeur, ça s'écrit W-A-S-M-E-R. Et puis enfin, Pierre Concialdi, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES. Son dernier essai s'intitule Non à la précarité. Il est paru chez Mango en 2007. Et puis, Michel de Bonneuil vient de nous rejoindre, pardon. Elle est elle aussi économiste, inspectrice générale des finances, chargée d'une mission par Christine Lagarde sur le plan numéro 2 des services à la personne. Elle est l'auteur notamment de l'espoir économique vers la révolution du quaternaire qui est paru chez Bourin l'année dernière.
Alors commençons d'abord par voir si nous sommes d'accord sur un point central à cette discussion. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur l'idée qu'il y a effectivement dualisation du marché du travail avec, pour résumer un peu ce que je disais à l'instant, d'un côté des gens qui sont très bien insérés dans les circuits de la mondialisation, qui sont protégés par des statuts professionnels ou en tous les cas qui sont couverts par des coûts de licenciement assez importants contre le risque de licenciement, et puis de l'autre, des gens qui sont enclavés dans des territoires périphériques de la mondialisation, hors des grands nœuds de circulation que vous décrivez, Pierre Valls, dans votre livre, marginalisé et réduit en réalité à accepter à peu près n'importe quel emploi déqualifié. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Et est-ce que, comme certains d'entre vous le disent, les lames du ciseau vont en s'écartant plutôt qu'en se rapprochant, comme ils ont eu tendance à le faire pendant les fameuses 30 glorieuses ? Avec qui peut-on commencer pour ce constat ? Peut-être vous, Pierre Vels.
Je crois qu'il faut distinguer la dualisation du marché du travail, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait d'un côté des gens protégés et de l'autre côté des gens qui seraient précaires, de la polarisation des qualifications des emplois. C'est pas forcément la même chose, parce que vous pouvez avoir aussi dans les emplois très qualifiés des gens qui sont en situation précaire. Vous savez que par exemple dans le travail d'ingénierie sont beaucoup développées des sociétés qui en réalité font une sorte de manpower généralisé de l'ingénierie. Donc distinguons bien les deux choses. Si on parle des qualifications, je crois qu'en effet, on est plutôt sur une tendance générale de certaines bipolarisations. C'est particulièrement, disons qu'on a, effectivement un développement des emplois très qualifiés à un bout de la chaîne, de plus en plus qualifiés, avec des exigences de diplôme de plus en plus grandes. Et puis de l'autre côté, on a des emplois moins qualifiés qui se développent beaucoup, et qui se développent beaucoup en particulier parce que c'est peut-être un paradoxe qu'il faut que les auditeurs comprennent bien, ils développent beaucoup, entre autres parce qu'on y fait peu de gains de productivité. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont mal payés. Je crois que on a en gros des emplois qui sont plutôt dans les secteurs technologiques qui sont très productifs, et puis on a des emplois de services, en particulier de services à la personne, qui évidemment représentent des gisements importants d'emplois, mais qui sont aujourd'hui des emplois assez peu productifs, et un régime de croissance doit se baser sur la productivité des emplois. Parce qu'ils sont peu productifs, en tout cas au sens de ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes et difficiles, hein, mais ils sont en fait mal payés, et je crois que cette bipolarisation effectivement est un risque important.
Pierre Concialdi, vous faites le même constat de cette dualisation des emplois due à la faiblesse des gains de productivité du côté des services en particulier?
Oui, je rejoins assez ce que vient de dire Pierre Levesse. Je rajouterais juste peut-être un élément. Je pense que il y a eu un signal, qui, à mon avis, n'est pas un bon signal, qui a été envoyé par les politiques publiques, qui était d'exonérer les emplois à bas salaire de cotisation sociale. Ça a conduit, ça a fonctionné d'une certaine façon, puisqu'on a vu effectivement se multiplier ce type d'emploi. La remarque que je voudrais faire, il n'y a pas forcément correspondance entre les emplois à bas salaire, enfin dit à bas salaire, je rappelle que la limite, c'est quand même, elle couvre plus de la moitié des salariés, donc on n'est pas sur un petit segment du marché du travail, on est vraiment sur une proportion majoritaire hein, des emplois. Les emplois à bas salaire, c'est au sens administratif plus de la moitié des emplois. Donc ce que je voulais dire, il n'y a pas nécessairement de coïncidence entre les emplois à bas salaire et des bas niveaux de qualification. Ah, puisqu'on sait aussi, par ailleurs, qu'il y a, et ça concerne assez fortement les jeunes, qu'il y a un processus de déclassement, de déqualification. Hein, aujourd'hui, 3 ans après la fin des études, un jeune sur 4 occupe un emploi déqualifié par rapport à son niveau de formation. Donc voilà, effectivement, c'est une question qui est devenue de plus en plus préoccupante et avec des tensions sur le marché du travail qui tendent à accentuer cette polarisation.
Étienne Vassemer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé au cours des 30 glorieuses, où on a vu quand même le ciseau dont je parlais tout à l'heure, les lames du ciseau se resserrer, où on a vu les qualifications, le niveau général des qualifications augmenter en même temps que le niveau des salaires dans nos pays, en tous les cas, sous l'effet du rapprochement des modes de vie et des gains de productivité auxquels faisait référence Pierre Vels. Et est-ce que vous pensez, vous, que le ciseau, dans les années qui viennent, va avoir tendance, les lames du ciseau vont avoir tendance à s'écarter encore ou à se rapprocher? Quel est votre pronostic?
On est passé d'un monde de croissance élevée à un monde de croissance faible. Alors dans un monde de croissance élevée, il y a des cercles vertueux, tout le monde peut être mobile, tout le monde peut bouger, il y a la mobilité. Pendant cette période-là, le niveau d'éducation a effectivement monté, la participation des femmes a augmenté, les emplois se sont féminisés, donc on avait un cercle qui était plutôt vertueux avec ses faiblesses, avec de l'inflation, mais ça c'est disons que beaucoup de problèmes pouvaient se résoudre. Maintenant on est passé dans un cycle avec une croissance ont ralenti et peut-être des besoins en main d'œuvre qui correspondent pas exactement à ce qui sort du système éducatif. On parlait de des gens qui sortent du système éducatif avec des diplômes et qui n'arrivent pas à s'insérer facilement dans l'emploi, mais en même temps, vous avez, je regardais les chiffres récemment, 17% des jeunes qui sortent en ce moment donc du système éducatif qui ont soit aucun diplôme, soit un niveau brevet. 17%, c'est quand même beaucoup. Et on peut rajouter tout un certain nombre de diplômes spécialisés, professionnels, qui sont à des niveaux d'études relativement faibles et qui peut-être, certains d'entre eux correspondent bien à une demande, mais d'autres ne correspondent pas à une demande. Et donc, si vous voulez, l'état du marché du travail, c'est la rencontre entre la demande et l'offre. Et l'offre, ça commence par un bon niveau d'études général, avec des gens capables de bouger, de se socialiser. Puis on parlera probablement des services à la personne par la suite. Les services à la personne, ça implique aussi un certain nombre de qualités humaines, de développement, de sociabilité, qui sont assez cruciales.
Oui, mais alors, en même temps, j'entends bien ce que vous dites, Étienne Passmeur, mais est-ce que on a besoin de qualifications pour les emplois qui aujourd'hui sont vacants en France? Parce que, en fait, il manque des emplois dans des secteurs très traditionnels, qui sont la restauration, le bâtiment, où on voit, l'actualité nous le montre, que ce sont un certain nombre des sans-papiers qui aujourd'hui prennent ces tâches. Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'on, enfin, on peut, c'est très bien de former des citoyens et d'avoir des niveaux de qualification très forts, mais est-ce que concrètement, ça rencontre effectivement la demande des employeurs aujourd'hui?
Si les employeurs n'arrivent pas à recruter, ils n'ont qu'à monter les salaires. Alors, s'ils ne montent pas les salaires, c'est qu'il y a des problèmes par ailleurs. C'est que quand la conjoncture se retourne, on n'arrive plus à les baisser. Donc il y a tout un ensemble. Tout à l'heure, on parlait un peu de flexibilité au niveau de la protection de l'emploi. Il faut voir aussi la flexibilité dans les contrats. Mais c'est un problème très complexe. Donc en général, dans un marché qui fonctionne bien, les salaires sont censés monter quand il y a une pénurie et baisser quand il y a un excès d'offres. En l'occurrence, s'il y a effectivement des secteurs qui ne recrutent pas, donc il y a deux problèmes. Le problème des salaires et puis le problème de la mobilité géographique. Je crois qu'on a un marché du logement qui fonctionne très mal, avec des prix qui ont été en hausse les dernières années, peut-être que ça commence un peu à baisser, qui n'est pas fluide du tout. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses, et notamment le marché du logement, qui peuvent améliorer les choses.
Michel Debonneuil, vous êtes inspectrice générale des finances et vous êtes chargée d'une mission par Christine Lagarde sur justement les services à la personne. Mais pour revenir à l'introduction que faisait Brice Couturier, il faisait référence implicitement à la stratégie de Lisbonne quand même, à cette idée, hein, la stratégie de Lisbonne, on la met en place en 2000, c'est l'horizon 2010, à l'époque c'était encore 10 ans devant nous, il n'en reste plus que 2, c'était l'idée que l'Europe deviendrait extrêmement performante dans toute cette économie de l'immatériel, de la connaissance, du savoir, et qu'effectivement on allait se transformer comme ça en une sorte de nomade avec nos téléphones portables branchés de partout et faire du télétravail. C'est vrai que les signes qui nous ont plutôt été envoyés par les politiques publiques en France, c'est pas tellement des chiffres étonnants mis sur la recherche et développement ou la recherche publique, c'est plutôt des plans d'offres à la personne, d'offres de services. Donc c'est un petit peu compliqué de comprendre où sont vraiment les gisements en France. On nous dit il faut tout mettre sur la recherche, devenez tous extrêmement compétents, et puis de l'autre côté on nous dit demain là où il y aura de la place c'est pour faire du ménage, aider les femmes à garder les enfants, etc. Michel Debonneuil.
Oui, alors si vous voulez, moi je voudrais revenir sur le point qui me paraît important, c'est le fait qu'aujourd'hui les savoir-faire circulent, c'est-à-dire qu'on a à côté de la circulation des biens qui date de long terme, de longue date, on a une circulation totale des capitaux et des personnes. Et donc, si vous voulez, de ce fait, les savoir-faire circulent. Donc ça veut dire que Ricardo est mort. Ou il est en tout cas endormi pour 30 ans. Voilà. Et je crois que si on ne prend pas conscience de cela, on fait une erreur qui me paraît grave. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une égalisation des savoirs, des savoir-faire? Bien, vous avez tout de suite, et ça a déjà été fait, une égalisation à très haut niveau des rémunérations de ceux qui sont très rares. Voilà. Donc, y compris dans les pays en voie de développement, si on veut faire revenir un grand médecin ou un grand chercheur, faut le payer comme il l'est à Stanford, et c'est fait. Ils le font. Voilà. Donc, il y a la mondiale des riches. Elle est faite. Bon. Des riches, disons, très qualifiés. Voilà. Qui savent faire ce que très peu de gens savent faire.
Donc, plus de spécialisation de ce qu'on appelle l'Occident dans les très hautes compétences.
Voilà. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, parce qu'il y a des niches, mais en gros, les pays en voie de développement, ils ont les mêmes usines que nous, et ils ont les mêmes formations dans les mêmes universités. Ils envoient leurs élèves, soit ils les font maintenant sur place. Bon. Donc, après, ce qui se passe, et ce qui est effectivement très inquiétant et qu'il faut gérer, c'est qu'on est en train d'aller vers une égalisation de ceux qui savent faire des choses que tout le monde sait à peu près faire, voilà. Et comme, si vous voulez, d'un côté, du côté des pays riches, il n'y en a pas beaucoup, et du côté des pays pauvres, il y en a énormément, ben, quand on y réfléchit, on dit que cette égalisation, évidemment, elle risque de conduire vers une égalisation qui ressemblera beaucoup plus au niveau de vie de ceux qui tombent très pauvres qu'au niveau de vie de ceux considérés encore comme la classe moyenne des pays riches. Voilà. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. C'est une peinture un peu à grands traits, hein, mais c'est quand même, je crois, une façon de comprendre ce qui se passe. Alors, face à ça, pour répondre à votre question, parce que tout ça se tient, face à ça, on voit bien que le problème, c'est qu'il faut retrouver un avantage comparatif, ou alors il faut fermer les frontières. Bon, ça serait pire. Bon,
il faut retrouver... Certains
oui, le préconise. Non, mais parce que c'est là...
Ou le Kimmel Karoui qu'on avait reçu il y a quelques mois, pensait que c'était la solution pour demain.
Mais non, mais s'il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là. Hein. Bon, moi, je pense qu'il y en a une autre. C'est-à-dire, il faut créer un nouvel avantage comparatif des pays riches. Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple, le seul avantage des pays riches, c'est qu'ils sont riches. C'est-à-dire que leurs consommateurs ont un niveau de vie qui est plus élevé que celui des autres et que donc, c'est pas qu'ils sont différents, on est tous pareils. Simplement, nous n'avons pas les mêmes besoins parce que nous avons un certain nombre de besoins satisfaits. Et donc, avec les mêmes savoir-faire, il faut travailler pour faire des produits pour des gens qui ont besoin, beaucoup de besoins satisfaits.
Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que l'économie quaternaire, mais je préférerais que ce soit en fin d'émission pour qu'on finisse cette émission sur un constat d'optimisme qui ouvre un peu sur l'avenir, mais n'anticipons pas, commençons d'abord par finir sur le constat que nous sommes en train de tenter de dresser. Pierre Vels, est-ce que vous pensez, vous aussi, que les spécialisations rares ne sont plus le privilège des pays riches et occidentaux, disons du Nord, et que par conséquent les hauts salaires ne sont plus non plus qui vont avec ne sont plus non plus leur apanage, et que par contre les compétences peu rares provoquent cette égalisation des conditions, cette mise en concurrence des travailleurs peu qualifiés de l'Europe ou du Nord des États-Unis avec les travailleurs peu qualifiés de l'Asie.
Oui, alors par rapport à ce que vient de dire Michel Debonnet, je suis en partie d'accord et en partie désaccord.
Nous cherchons les désaccords.
Désaccords. Alors, je commence par l'accord. L'accord, c'est de bien se rendre compte que, vous savez, longtemps, et beaucoup de gens encore pensent qu'on va avoir une espèce de division internationale du travail assez stable. En gros, nous, l'Occident, les États-Unis et l'Europe, pour faire simple, nous sommes le cerveau du monde, l'Inde va être le bureau du monde et la Chine, l'atelier du monde. C'est une absurdité.
Pierre Vernes, vous dites tous les deux là à la suite que c'est une absurdité, mais ça nous a nourri comme mythe depuis. Enfin, quand même, la stratégie de Lisbonne, c'est pas si vieux, c'est il y a 8 ans et on y a cru au moins pendant 5 ans.
Non, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner la stratégie de Lisbonne, qui malheureusement n'a jamais été mise en œuvre. Oui, il faut au contraire renforcer ça. C'est pas.
Non, mais donc pour les économistes aujourd'hui, tout ça c'est terminé, c'était une vaste illusion.
Non,
qu'on
non,
allait
pas
sauver
du tout.
En étant plus intelligent que les autres.
Non, on a quand même une avance historique importante, quoi. Je veux dire, il faut tenir compte de ça aussi. Les Indiens, les Chinois, etc., montent très vite en compétences. Et alors, il faut aussi penser que c'est plus facile, d'une certaine façon, de délocaliser des centres de recherche que de délocaliser des usines. Une usine, ça vous demande un environnement industriel complexe. Il faut des ouvriers de maintenance, c'est très difficile. Des universités chinoises, parties de rien, peuvent, en quelques années, se mettre dans le peloton de tête mondial. Donc, il faut abandonner cette idée qu'il y aura une espèce... Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Je ne vois pas au nom de quoi on peut s'en réjouir. C'est quand même très, très bien que... Je ne vois pas au nom de quoi l'Occident serait propriétaire de l'intelligence pour le reste du temps. Ça n'a jamais été comme ça dans le passé. Au fond, il y a eu une petite parenthèse historique depuis le XVIIe siècle. On a pris un petit cran d'avance. Mais si on regarde avant, c'était moins évident. Et on va revenir à une situation plus normale où vraiment les travaux de pointe vont être répartis dans l'ensemble du monde. Et je pense que c'est un grand bénéfice pour l'humanité tout entière. Alors là où je suis moins d'accord avec Madame de Bonneuil, c'est sur un certain pessimisme sur les qualifications moyennes. Hein, on reviendra tout à l'heure sur les qualifications, disons moyennes, plus faibles. En particulier l'industrie. Regardez l'Allemagne, quoi. Je trouve que quand même tous ces gens qui nous disent notre industrie au fond traditionnelle est fichue parce que les salaires indiens, regardez l'Allemagne, quoi.
Voilà. Premier exportateur du monde.
L'Allemagne, premier exportateur du monde, avec des biens très traditionnels, une organisation de l'industrie assez traditionnelle, ma foi. Voilà. Et donc ça prouve quand même que on a encore des avantages comparatifs, y compris dans ces domaines-là. Alors peut-être c'est lié en partie à la spécialisation de l'Allemagne dans des biens d'équipement dont le monde entier aujourd'hui a besoin. Mais l'industrie française, vous avez vu les chiffres de 2007, se porte aujourd'hui pas si mal. Donc moi, je pense qu'il faut surtout ne pas... Et il y a un discours aujourd'hui ambiant aussi sur la société post-industrielle qui est très dangereux parce que c'est un discours défaitiste qui consiste à dire, après tout, le secteur manufacturier, enfin, toutes ces qualifications très importantes et qui ne sont pas des qualifications moyennes. Enfin, il faut beaucoup de compétences pour faire tourner une usine moderne. Hein. C'est plus de là. C'est quand même aujourd'hui des choses très sophistiquées. Je pense qu'on a encore un avenir aussi dans ce domaine-là.
Voilà. Vous ne croyez pas à une France sans industrie?
Non, je la redoute, parce que je pense qu'il y a eu des l'année 2007 a été plutôt bonne pour l'industrie, contrairement à ce qu'on pensait, mais il y a quand même des signes d'érosion un peu graves, et je pense qu'elle est liée en partie au fait que nos élites ne croient plus tellement à l'industrie, ils ne sont jamais tellement intéressés à l'industrie, et aujourd'hui il faudrait resserrer les rangs un peu derrière l'industrie. On manque peut-être un peu de détermination dans ce domaine-là.
Pierre Conseldi, est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui avec 20 ans de retard dans la situation où se trouvent aujourd'hui les Américains, dans lesquels on a bien vu ce passage des cols bleus qui voyaient les usines fermées, par exemple l'armement, par exemple l'automobile, et qui ont glissé progressivement vers les services à la personne, la restauration, les petits boulots, et qui c'est ce qui a constitué pour les travailleurs américains une fantastique baisse de niveau de vie et de capacité de défense syndicale en particulier. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de vivre? Et est-ce que quelque part l'industrie, ce n'est pas un petit peu lié dans notre esprit aux protections sociales dont on a pu bénéficier dans les années de l'époque des 30 Glorieuses? Est-ce que vous voyez, vous, un nouveau modèle industriel de relations sociales qui serait différent de celui des 30 Glorieuses, qui serait adapté aux concurrences que nous devons supporter du fait de la mondialisation?
Je pense que la concurrence elle a toujours existé, mais je rejoins beaucoup de ce que vient de dire Pierre Valls, et notamment l'idée que nos élites ne se sont pas beaucoup intéressées à l'industrie. Je dirais même que, d'une certaine façon, je doute du savoir-faire de certains de nos entrepreneurs. Il y a un constat qui est un peu paradoxal quand même quand on regarde les chiffres de façon globale, je suis un peu provocant peut-être, bon, c'est que la France est parmi les pays qui a le niveau de productivité le plus élevé. Ça c'est un constat. Deuxième constat, quand on regarde d'autres chiffres, en termes de coût de main-d'œuvre au sens le plus commun, c'est-à-dire ce que les entreprises doivent dépenser pour employer une heure de la main-d'œuvre, on est dans la moyenne des pays développés, et même lorsqu'on regarde le coût de la main-d'œuvre ouvrière, on est mieux placé que la plupart des pays développés. Et ça ne tient pas, et je précise une chose, on pourrait dire, ça c'est l'effet des politiques justement d'exonération de cotisations sociales. Non. Avant la mise en place de ces politiques, il y a un organisme qui s'appelait le CERC à l'époque, le Centre d'études des revenus et des coûts, qui avait publié une étude qui montrait exactement ce que je viens de vous dire. Alors ça s'est peut-être amélioré. Alors on a ce constat paradoxal, c'est-à-dire qu'on a des bons atouts macroéconomique en termes de compétitivité, et que les résultats sont pas en rendez-vous. Et moi, un des éléments d'explication que je vois, c'est que je dirais qu'il y a eu un mauvais signal, je reviens à cela, qui a été envoyé par les politiques publiques, qui est de dire on va abaisser le coût de la main-d'œuvre. Et ce mauvais signal a conduit un certain nombre d'entreprises, je ne dis pas toutes, mais je pense que ça a conduit un certain nombre d'entreprises à s'accoutumer, finalement à intégrer dans leur stratégie l'idée que, effectivement, pour concurrencer les Chinois, on va pouvoir abaisser le coût de la main-d'œuvre. Non, c'est certainement pas de cette façon-là qu'on peut concurrencer des pays où le coût de la main-d'œuvre représente quelques pourcents en moyenne de ce qu'il représente chez nous. C'est effectivement en développant d'autres avantages comparatifs, mais ça suppose de la part des entreprises et des entrepreneurs, en tout cas dans un certain nombre d'entre eux, je dis pas que c'est une généralité encore une fois, mais je pense qu'il y a un problème qui est un peu spécifique en France, et notamment lorsqu'on regarde les stratégies des firmes allemandes, hein, qui sont quand même de longue date différentes dans beaucoup de secteurs. Je pense qu'il y a une spécificité française qui tient à ce que finalement on n'a pas la capacité de développer des productions innovantes sur le plan technologique et donc de tirer parti de ces atouts qui, je crois, restent importants dans notre pays.
Étienne Vassemer, pour en revenir à cette question du dualisme de la main-d'œuvre, est-ce que les politiques publiques ont joué, est-ce que vous pensez vous aussi que les politiques publiques ont joué un rôle néfaste en exonérant de charges un certain nombre d'entreprises dans des métiers qui semblaient avoir trop peu d'avantages comparatifs par rapport à celui de nos concurrents d'Asie, et est-ce que vous auriez souhaité d'autres stratégies pour permettre aux gens, voilà, la question c'est est-ce que les gens dotés d'une faible qualification peuvent encore travailler dans nos pays?
C'est la question clé, c'est-à-dire que le raisonnement de Pierre Conseldi n'est pas faux de dire si on abaisse trop le coût du travail, les entreprises ne vont pas investir dans des technologies ou en capital et donc du coup la productivité de la main-d'œuvre sera plus faible. Et en même temps, quand je revenais au chiffre que je donnais tout à l'heure sur 17% des gens qui sortent avec un niveau d'études faible encore aujourd'hui, sachant que dans le passé il y a eu beaucoup plus de gens qui sont sortis avec des niveaux d'études faibles, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire est-ce qu'on les laisse au chômage ou est-ce qu'on leur donne le RMI, est-ce qu'on les laisse aux minima sociaux ou est-ce qu'on essaye de les employer? Et si on les emploie, à ce moment-là, il faudra immanquablement passer par des baisses de charges. Alors, je ne dis pas que ce soit un idéal en soi, mais il faut bien faire quelque chose dans le court terme. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, vous avez dit les élites ne s'intéressent pas à tel ou tel secteur. Moi, ça me rassure quand elles s'intéressent pas trop au secteur, parce que quand elles se mettent à trop s'intéresser, eh ben elles peuvent se tromper, ces élites. Moi, je me souviens quand on a travaillé sur le rapport.
Le plan calcul, par exemple.
Le plan calcul, où je me souviens avoir lu un rapport de 79 qui prédisait qu'en 1990 l'Union soviétique sera à son apogée et que le marché connaîtrait de graves défaillances. Donc, c'est pour dire que la prévision c'est difficile et que quand les politiques s'intéressent à tel ou tel secteur, sans démagogie aucune, ils peuvent se tromper. Et donc, ça fait beaucoup de moyens qui sont fossilisés, si j'ose dire, pendant des années, et peut-être que ces moyens seraient assez utiles dans d'autres secteurs, en particulier la formation, la santé, etc. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut être assez modeste par rapport à nos prévisions. On sent qu'il y a des secteurs qui émergent parce qu'il y a des grandes tendances démographiques, le vieillissement, donc on va avoir besoin de plein de gens, on va avoir besoin d'investir dans la santé, ce qui d'ailleurs aura un coût assez colossal. Ça, ces tendances-là, personne ne les conteste et on peut mettre en place la main-d'œuvre qui va permettre de répondre aux besoins. Maintenant, quand il s'agit de dire tel secteur, c'est très high-tech, ça va nous plaire, on va développer tous les moyens là-dedans, ça plaît beaucoup aux ministres parce que ça leur permet de communiquer beaucoup. En général, ils n'arrivent pas à dégager beaucoup de moyens et s'ils en dégagent beaucoup, ils peuvent se tromper et ça fossilise tout ça. Donc je crois qu'il faut rester tranquille par rapport à la prospective.
Michel Debonnet, justement, vient d'évoquer les emplois, les services à la personne, avec notamment la question du vieillissement démocratique qui connaît toute l'Europe. Il y a un rapport qui est sorti, je crois, assez récemment de l'OFCE, où travaille Étienne Vasseur, mais ça n'est pas lui l'auteur, donc je ne vais pas le mettre en position de le défendre, mais qui fait un bilan extrêmement critique du plan Borloo, ce qu'on appelle le plan Borloo. Je rappelle que le ministre avait à l'époque peut tabler sur 500 000 postes nouveaux d'ici à 2008-2009. Et alors, les résultats auxquels ils arrivent, ce serait l'équivalent en temps plein de 14 700 personnes. Alors, en temps plein, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plus de gens qui sont employés, mais avec des très faibles durées du travail. Donc, si on essaye de ramener tout en temps plein, ça ne ferait que 14 000, ou disons 15 000 personnes par rapport aux 500 000 prévus par le ministre. Alors quoi ? C'est un vaste échec. On s'est trompé là aussi. En fait, il n'y avait pas de gisement dans les services à la personne.
Bon. C'est un sujet que j'aime pas bien aborder parce que, bon, c'est...
Ah, vous êtes chargé d'une mission sur le sujet,
non,
c'est
mais,
pour ça que
non,
je me
non,
permets
de vous avez, poser la question. Je vais le faire, mais enfin, on est quand même obligé de dire que les données qui sont utilisées concernent une période qui est avant la mise en place du plan, donc c'est quand même un peu difficile de juger le plan alors qu'on n'est pas sur la période...
Vous dire que l'OFCE n'a pas pris les bons chiffres.
Oui, enfin, des chiffres qui concernent, qui sont avant le plan, donc c'est un peu ennuyeux pour juger la qualité du plan, c'est pour ça que bon. Ensuite, si vous voulez, je voudrais donner des explications, par exemple, sur les 500 000 emplois que Jean-Louis Borloo a évoqués. Je le sais parce qu'il a coupé en quatre un chiffre qui paraissait trop exorbitant que je lui avais donné, qui était de 2 millions d'emplois, qui n'était pas une prévision, qui était une illustration du potentiel que j'avais simplement fabriqué en disant que si chaque famille française consommait 3 heures de service par semaine, comme il y a 3 personnes par famille, ça faisait 1 heure par personne dans chaque famille. Un taux d'équipement en service qui ne paraissait pas exorbitant. Bien, si on fait le calcul, vous savez ce que ça donne ? Ça donne 2 millions d'emplois. Donc, voilà, c'était juste pour illustrer, parce qu'effectivement, je vois vous écarquiller les yeux, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce résultat. Voilà, c'est pour montrer le potentiel par rapport à des taux d'équipement de 3 voitures, etc., par ménage. Donc, 1 heure de service à la personne, ce n'est pas considérable et c'est un gisement de 2 millions d'emplois. Bon, donc, j'avais dit ça, Jean-Louis Borloo l'a coupé en 4, parce que c'est vrai que 2 millions, ça faisait beaucoup. Il pensait qu'avec 500 000, il était à l'abri. Et je pense qu'on y arrivera. Bon, parce que effectivement, moi, c'était encore une fois pas une prévision, c'était simplement une illustration. Et puis sur le, en plus, convertir en temps plein, je pense que c'est une mauvaise connaissance de ce qui se passe dans tous les pays qui ont le plein emploi, soi-disant. Ce plein emploi, les 3/4 des emplois qu'ils ont créés, nous n'avons pas créé, ce sont des emplois à temps partiel et la moitié des emplois à temps de moins de 15 heures par semaine. Donc, je veux bien, au contraire, qu'on se donne des modèles, mais au moins qu'on sache ce que sont ces modèles. Et effectivement, les emplois que nous n'avons pas créés sont des emplois à temps partiel, donc je prétends qu'il ne faut pas convertir en temps plein ces emplois, parce que à ce moment-là, il faut convertir ceux des pays en question et nous verrons que nous ne sommes plus si loin non plus d'eux. Quant aux 14 700, je pense là que c'est une erreur typographique, il manque un zéro. Mais, voyez,
ah non, bon, je crois donc pas, parce qu'en fait, même avant, ils pensent que le secteur de service à la personne ne contribue que pour un quart entre le deuxième trimestre 2005 et 2006 à l'ensemble des créations d'emplois marchands. Ah, donc un quart 2006, en gros, c'est 42 000 personnes.
Il y a eu 130 000, enfin, ça dépend des années, mais cette année, par exemple, 130 000 créations d'emplois. Donc, en gros, si vous voulez, c'est à peu près la moitié des créations d'emplois selon les années. Effectivement, dans une mauvaise année comme l'année 2007, parce qu'il y a eu beaucoup de créations d'emplois, les services à la personne représentent à peu près la moitié. Bon, donc si vous voulez, je ne comprends pas ces chiffres, mais dans le rapport, il va y avoir effectivement des données très précises, parce que c'est vrai que c'est compliqué. D'abord, ce n'est pas un secteur d'activité. Bon, donc ça serait trop long à expliquer ici. Mais si vous voulez, je pense que il faut effectivement, ce sont des sujets beaucoup plus compliqués que les gens ne le pensent, et on ne peut pas effectivement traiter le problème en quelques lignes, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas eu de mauvaise volonté, etc. Mais on a donné trop d'importance à un article qui était pas suffisamment étayé pour liquider le sujet.
Voilà. Bon, alors c'est quand même un rapport de l'OFCE. Hein. C'est des gens qui normalement connaissent leur sujet. C'est pas un délire de journaliste. Juste pour préciser. Pierre Conciel dit.
Oui. Deux remarques, mais pour dialoguer. Hein. La première, c'est sur l'estimation des 2 millions. Je fais bien le calcul. Hein. Simplement, tout le monde ne peut pas acheter les services de tout le monde. Pour acheter les services de quelqu'un, hein, il faut avoir les moyens. Et donc, il faut avoir une rémunération qui, en général, est supérieure à celle que des gens qu'on achète. Donc, je pense que le chiffre de 10 millions, il est manifestement, si c'est comme ça que vous l'avez calculé, trop fort. Hein, il faudrait je me souviens très bien des premières évaluations de la loi quinquennale sur l'emploi après 93. L'idée c'était ça, il faut augmenter les inégalités salariales parce que justement on ne peut développer le secteur des services à la personne par définition que s'il y a des gens qui sont en capacité et qui ont donc les revenus, les rémunérations d'acheter les services d'autres personnes. Voilà. Et donc là, il y a un enjeu là qui dépasse largement, je pense, l'enjeu strictement économique, qui est un enjeu de société, parce que je pense que les créations d'emplois, c'est évident qu'il y a des forces de nature économique qui y contribuent, mais c'est évident aussi que dans nos sociétés, en tout cas, jusqu'à présent, il y a des institutions qui fonctionnent et qui encadrent le fonctionnement de ça. Donc il y a des choix sociaux qui sont tout à fait évidents derrière ces politiques. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur la notion de plein emploi. Michel de Bonneuil nous dit finalement plein emploi, si c'est des petits boulots de tiers temps, hein, grosso modo ça correspond à peu près à ce que vous venez de nous dire sur les emplois de service à la personne, ça correspond aussi à d'autres évaluations faites par des économistes lillois. Finalement, il faut les compter comme des emplois. Non, je pense pas. C'est une question qui a été portée notamment par un collectif de chômage qui dit des choses simples que disent tous les statisticiens et tous les économistes du travail depuis maintenant 20 ou 30 ans, c'est que à côté des indicateurs de chômage, comme on dit, il faut qu'on ait des indicateurs de sous-emploi et de qualité de l'emploi, parce que la question aujourd'hui, justement, elle est plus très simplement dichotomique entre avoir un emploi ou être au chômage. Les frontières sont beaucoup plus brouillées, et donc pour effectivement avoir des évaluations des politiques publiques qui soient pertinentes et pour viser ce qu'on appelle souvent parfois le plein emploi de qualité, il faut au moins deux ou trois indicateurs. Hein, et donc moi je n'ai pas la même vision que vous, si vous voulez, des objectifs en tout cas à atteindre dans ce domaine-là. Le plein emploi, c'est non seulement effectivement un taux de chômage qui serait faible, mais c'est aussi un sous-emploi qui serait inexistant, et c'est aussi des emplois de qualité. Voilà, je pense que si on ne tient pas les trois bouts de ce problème, on manque une grande partie des questions.
Comme disent beaucoup de critiques des modèles, par exemple, britanniques, à quoi bon le plein emploi si c'est pour avoir une multiplication des petits boulots extrêmement sous-payés, Étienne Vassemer?
Oui, alors, juste pour revenir sur l'étude de l'OFCE que je n'ai pas lue, donc je ne vais pas la détailler, mais je crois que d'abord c'est bien qu'il y ait des instituts indépendants qui puissent apporter une expertise différente du gouvernement. En l'occurrence, moi, sur savoir si les données dataient d'avant ou d'après le plan, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, la question du pouvoir d'achat est devenue centrale, que les ménages se sont pris de plein fouet le choc du prix du pétrole, le choc des denrées alimentaires, et donc ces 2-3 heures de service en plus, elles sont dans la marge qui a été un peu rabotée par la hausse de tous ces prix, notamment de l'énergie. Donc ça me surprend pas tellement. Maintenant, effectivement, et c'est vrai que les ménages français sont pas riches. Le chiffre moyen, je parle sous le contrôle de Pierre Concialdi, c'est que c'est 2200 euros par ménage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui gagnent moins que cela, 20% des ménages gagnent moins de 1500 euros. Donc ça semble indiquer que les services, à partir du moment où ils sont chers, ne seront pas demandés par les ménages. Maintenant, dans le long terme, je suis persuadé qu'il y a un énorme gisement d'emploi. Je crois qu'il faut regarder dans le long terme. On a le vieillissement, ça va être une source majeure de demande d'aide à la personne. Et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir, on a commencé déjà, mais de plus en plus, à quelle formation on va offrir aux jeunes qui sortent du système éducatif, quel degré de compétences on leur demandera et qu'est-ce qu'on leur demandera, surtout en termes de sociabilité. Il faut bien voir que ça va être dans la notion de service à la personne, il y a le fait que ce sont deux personnes qui échangent, qui se font confiance l'une dans l'autre, et on est dans un autre monde. On a 73% des emplois qui sont dans les services à la personne, donc je sais pas si ça s'appelle le secteur quaternaire, mais ça va être de plus en plus des relations de confiance, et cette confiance-là, il va falloir la travailler.
Attendez, on va finir cette émission avec le quaternaire, et vous allez voir que ça ouvre pas mal de
perspectives. J'ai peur que le quaternaire soit réservé au féminin, parce qu'en général, quand on parle de sociabilité, d'échange de personne à personne, on tombe toujours sur les emplois féminins. Mais on garde le suspense, alors. Pierre Veltz.
Non, mais je crois qu'en effet, dans ce débat, il faut distinguer un peu le court terme et puis le moyen terme. Bon, la polémique sur les chiffres du plan Borloo et tout, c'est moyennement intéressant de mon point de vue. Je pense que c'est vrai qu'on a aujourd'hui dans le court terme un problème réel qui est que beaucoup des ménages qui auraient le plus besoin de services sont dans des situations de plus en plus. Je pense par exemple aux ménages qui sont dans les grandes périphéries urbaines. Vous savez qu'on a un phénomène d'étalement urbain considérable. Bon, ces gens sont allés là parce qu'ils avaient pas accès à véritablement d'autres logements plus proches du centre-ville. Ça a été possible parce qu'ils avaient un coût de transport qui était faible. Aujourd'hui, leur coût de transport explose, donc la situation devient difficile. Et c'est précisément ces gens-là qui auraient le plus besoin de gens, parce que les femmes font des circuits pas possibles pour mettre les enfants à l'école, aller faire les courses, etc. Donc, il y a un problème de court terme. Voilà. Mais le vrai sujet, quand même, c'est, puisqu'on réfléchit un peu en prospective, c'est l'avenir. Et moi, je pense que, pour de multiples raisons, l'avenir des emplois dans nos sociétés va tourner. Alors, j'espère qu'on va garder ce pool d'emplois très hautement qualifiés dans la compétition internationale, qui nous est indispensable, mais qui ne va pas représenter des masses considérables d'emplois.
Quel pourcentage, en gros,
vous avez une idée ? Je ne peux pas dire, mais enfin, ça va pas faire plus de 20% ou 30% maximum. Enfin,
une petite donnée statistique, le rapport de la DARES sur les métiers en 2015 estime que les cadres qui sont aujourd'hui, enfin qui étaient en 14% de la population active, devraient quand même monter à 21% en 2015. Donc on voit qu'il y a quand même une augmentation régulière
dans différents secteurs.
D'accord.
Moi, ce que je pense, c'est que les emplois du futur, ils vont être dans pas seulement les services à la personne au sens où on l'entend, mais moi, dans ce que j'appelle les activités anthropocentrées, tout ce qui tourne autour de l'homme. C'est-à-dire en gros, c'est quoi ? Ce qu'on voit d'ailleurs dès aujourd'hui, ce qui montre, c'est l'éducation, la santé, le loisir, la mobilité. Si on prend ces quatre facteurs-là, on va en parler peut-être à propos du quaternaire, mais justement, ces quatre facteurs-là, c'est l'avenir. Or, le problème par rapport à ça, en un mot, c'est que c'est en grande partie des emplois de type, il y a une partie d'emplois de type industriel, il y a de la techno là-dedans, mais ce sont surtout des emplois de type service. Et il y a deux scénarios. Soit c'est un scénario type un peu retour au 19e siècle, c'est-à-dire que ce sont des emplois vraiment de domesticité, un peu de vassalité, hein. Par exemple, si on veut organiser aujourd'hui la rencontre entre une offre de service, si on prend l'agglomération parisienne, par exemple, vous avez parlé d'économie de la confiance, si on veut organiser une rencontre confiante entre l'offre de service à la personne et puis la demande, il faudrait réinventer les chambres de bonne, en réalité. Voilà, on va pas réinventer les chambres de bonne. Donc ça, c'est un scénario qui est le scénario un peu 19e siècle. Le scénario, moi, que j'espère, c'est un scénario où ces emplois de service seraient intégrés. C'est assez proche de ce que dit Michel de Bonneuil, je dis un peu différemment. Il serait intégré avec des emplois de haute qualification pour former des nouveaux complexes d'emplois, de biens et de services autour de la santé, autour de l'éducation, mais cette fois-ci avec des emplois, y compris des emplois apparemment simples, mais qui sont difficiles. Les emplois d'infirmiers, par exemple, sont extrêmement difficiles. Et là, je pense qu'on a un basculement, et là, on n'est plus dans la délocalisation. On est dans un changement, y compris du fonctionnement des villes, par exemple. Hein, les villes, ça a tiré les biens et les services de la période industrielle dont nous sortons, avec l'automobile, enfin, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on peut aller vers des formes nouvelles, où on aura ces complexes de biens et de
services autour de l'éducation. La santé, on dit, c'est un coût. La santé, c'est une formidable opportunité de développement.
Complexe biens et services, c'est justement la définition de l'économie du quaternaire que nous propose Michel de Bonneuil. Alors, votre modèle, c'est un modèle qui combine la fourniture de services et la fourniture de matériel sophistiqué et qui concilie le conseil, l'aide et la location même de matériel sophistiqué. Vous partez du constat que beaucoup des choses que nous utilisons ont été, que nous achetons, nous ne les utilisons pas ou nous ne savons pas les utiliser et que donc nous aurions bien besoin de quelqu'un qui nous les installe, qui nous les fasse marcher et éventuellement qui nous le reprenne pour les changer par d'autres, etc. Expliquez-nous votre modèle.
Je continue dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous voulez, je pense que la croissance aujourd'hui, elle est bloquée par le fait que on n'a plus de projets dont la production peut être faite sur nos territoires. C'est-à-dire, il faut des nouveaux besoins. Satisfaire, c'est ça la croissance, hein. C'est satisfaire de nouveaux besoins, et pour que ça fasse des emplois et de la production chez nous, il faut que ce soit des choses qui soient faites ici. Bon. Et je pense qu'on a une énorme chance.
Enfin, on ne peut pas délocaliser les coiffeurs hein, depuis toujours.
Voilà.
Ni les chirurgiens, ni les services, on ne peut pas les délocaliser.
Il y a du tourisme médical aujourd'hui.
D'accord. Avec la chirurgie virtuelle, un jour, on pourra peut-être faire un demi-kilomètre de distance.
Évidemment, dans laquelle il y a une certaine partie qui peut être délocalisée. Le problème, c'est de pouvoir créer le plein emploi. C'est pas de ne rien délocaliser. Bon. Donc, si vous voulez, l'intérêt, c'est que la nouvelle technologie, on revient sur Lisbonne, c'est-à-dire qu'il y a quand même des bonnes intuitions dans tout ça. Je pense qu'on a affaire à une nouvelle technologie générique, qui sont les technologies de l'information, et ce qu'elles ont de très particulier, qui n'a pas encore été développé, qui est en train de fabriquer ces nouvelles façons de faire, c'est qu'elles savent mettre à disposition temporaire des biens et des gens sur les lieux de vie. Voilà. Et si vous savez faire ça, ce que la mécanisation n'avait absolument pas su faire, eh bien, vous pouvez satisfaire tout autrement les besoins des consommateurs et les satisfaire beaucoup plus finement. Et d'ailleurs, le refaisant, vous pouvez le faire aussi proprement. Donc, c'est ça, je pense, qui est la clé de tout ça. C'est-à-dire que nous avons la capacité de créer des nouveaux produits qui sont des solutions de vie, qui mélangent tout ce qui était séparé autrefois et qui sont des produits pour des gens, je le répète, dont le niveau de vie moyen est plus élevé que ceux des pays en voie de développement. Parce que c'est clair qu'un Chinois, il va pas s'installer dans ce type de problématique parce qu'il a déjà pas le minimum. Voilà, ce que nous avons, nous. Donc, y compris les gens les plus pauvres qui sont en train de converger, si nous n'allons pas justement de façon délibérée vers cette économie nouvelle, les personnes qui sont les plus pauvres chez nous sont en train de converger, comme on l'a dit au début, vers les plus pauvres. Donc c'est un défi et en même temps un espoir, parce qu'on voit bien que si on
entre... Parce que les services que vous proposez, c'est des services haut de gamme. C'est pas pousser le fauteuil roulant de la grand-mère abandonnée.
Il faut aussi être pragmatique. Le problème, c'est de partir de la réalité. L'industrie, comment elle est partie au début du tissage de tissus, hein, et sans doute on a fait avec des machines les sabots qu'autrefois on faisait à la main. Donc si vous voulez, on ne peut pas inventer des nouveaux besoins tout de suite. Il faut partir de ce que les gens se font mal, s'autoproduisent, le faire à des entreprises qui, elles, ensuite montent en gamme. Bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, bien sûr que oui, les femmes de ménage se paieront des femmes de ménage, exactement comme les ouvriers de chez Renault. Quand M. Ford a dit « il faut que je paie mes ouvriers plus pour qu'ils puissent s'acheter des voitures », eh bien, immédiatement, ils ne l'ont pas fait. Mais on mettait le pied à l'étrier dans une évolution qui était celle de gains de productivité distribués sous forme de gains de pouvoir d'achat jusqu'à ces ouvriers les moins qualifiés, qui faisaient qu'à terme, ils se payent des voitures. Alors, bien sûr, pas une Mercedes neuve, mais une voiture d'occasion, une petite voiture d'occasion. Et là, évidemment, tout le monde n'aura pas le même nombre de femmes de ménage, mais vous aurez les riches qui auront, comme d'habitude, des femmes de ménage, enfin des employés de maison à temps complet. Mais la femme de ménage pourra se payer un ménage de printemps ou une heure ou deux par semaine pour se faire son ménage le plus gros. Donc, si vous voulez, oui, on entre dans le même genre de logique. Ce sont des produits pour les classes moyennes. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle.
Un c'est mélange produit-service.
Un mélange bien-service, parce qu'un produit, d'accord, c'est un bien ou un service. C'est des solutions. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, quand les entreprises le font pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle des solutions. Et comme les entreprises sont riches, elles ont déjà accès à ces solutions. Et lorsque nous aurons compris que si nous voulons nous en sortir, il faut nous comporter comme des gens riches, y compris toute la classe moyenne, eh bien nous demanderons et on nous fabriquera des solutions de vie.
Alors, est-ce que c'est une utopie ou pas, Pierre Concialdi?
Je ne partage pas l'optimisme de Michel de Bonneuil. Bon, c'est un peu triste, hein, parce que bon, j'aimerais bien être optimiste, mais malheureusement, je n'arrive pas à adhérer à sa vision du futur. Pour moi, ça reste fondamentalement pas un modèle, parce que c'est un modèle pour riches, et peut-être même pour très riches, si vous voulez.
Donc, elle explique elle-même dans son livre que ça va s'étendre. Que ça va d'abord commencer, ça.
Et puis oui, sincèrement, je ne pense pas. Je pense qu'on revient à... Enfin, c'est plutôt le scénario qu'évoquait Pierre Vels pour moi, hein. Je suis désolé, mais je pense que ça évoque davantage un scénario de domesticité qu'un scénario de nouveaux gisements d'emploi. Et je voudrais juste prolonger cette réflexion. Enfin, c'est pas une réflexion, c'est peut-être juste une idée. En prenant une citation, on est en train d'essayer de réfléchir sur les emplois du futur, qu'est-ce qu'on pourrait produire pour demain, etc. Je vais vous donner une citation, puis après je vais vous dire qui l'a prononcée. Il y a quelqu'un qui a dit que le problème aujourd'hui dans les pays les plus développés, c'était pas d'augmenter la production, c'est pas la croissance, mais c'était une meilleure répartition. Alors on pourrait dire c'est des décroissants comme on dit, ou des éclaireurs de croissance. La personne qui a dit ça, c'était John Stuart Mill, un économiste du 19e, qui a dit ça aux environs de 1850. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que la question fondamentale, je pense aujourd'hui, derrière le débat qu'on a aujourd'hui sur la nature des emplois, c'est finalement qu'est-ce qu'on répartit, comment on redistribue. C'est vrai qu'on va vers une société de service, et la société de service, par nature, elle pose de façon plus évidente que dans des sociétés industrielles ou agricoles, la question de la place des uns et des autres dans la société. C'est une question qui a des dimensions économiques évidentes, mais c'est aussi une question qui a des dimensions sociales et politiques tout à fait fondamentales. Donc voilà, je pense que c'est à travers cette réflexion-là, sur laquelle moi je ne suis pas en mesure d'apporter des réflexions autres que celles d'un citoyen comme les autres, qu'on peut, je pense, aussi répondre à, ou en tout cas prolonger votre interrogation.
Et alors, est-ce que vous voulez dire, Pierre Concialdi, que pour vous, une société de services demain a toutes les chances d'être plus inégalitaire que la société du monde industriel?
Je veux dire qu'elle est à construire. Elle ne sera pas forcément plus inégalitaire ou forcément plus égalitaire. Elle sera de façon plus évidente un choix de société. Il y a des choix de société. Dans les 30 glorieuses, on avait des choix implicites. Simplement, ils étaient peut-être davantage masqués. Il y avait des répartitions, une certaine mutualisation entre les secteurs des gains de productivité. Et donc, ça, c'était aussi des choix de répartition. Mais ça sera plus évident. Alors, les tendances actuelles, si pour moi, elles sont effectivement davantage vers un croisement des inégalités. Ce que je dis simplement, c'est que c'est, à mon avis, pas inéluctable.
Étienne Vasmer.
Oui, sur la tertiarisation, on a de plus en plus d'emplois en contact avec le public. On peut voir aussi que dans les 30 prochaines années, la part des seniors dans la population va passer de 16 à 23%, donc enfin, plus de 65 ans, donc ça veut dire qu'on aura besoin de tous ces services à la personne. Et je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui est peut-être assez sensible, mais on a un certain nombre de travaux qui confirment que dans une société de services, les contacts interpersonnels jouent un rôle, et dans une société multiculturelle qui est la nôtre, c'est pas forcément facile d'intégrer les minorités visibles dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la discrimination par les consommateurs, qui est un fait contre lequel il faudra prendre
les bonnes sont philippines dans le 16e arrondissement.
Alors ça, peut-être pour un certain nombre de choses, mais quand il s'agit, vous prenez la personne âgée qui a 85 ans, qui est dépendante, qui n'est jamais sortie de son village du Poitou, et qu'il va falloir faire accepter à la société que les aides à ces personnes vont être de toute confession, de toute origine, etc. Oui, j'ai quelques chiffres ici. Il y avait l'enquête Génération 98 du CEREC qui regardait au bout de 5 ans de vie active en 2003, donc comment les différentes catégories de la population française s'inséraient dans le marché du travail. Les gens qui ont deux parents nés en France sont encore à 10% de chômage, ce qui est beaucoup, mais les gens qui ont un parent né au Maghreb sont encore à 21% de chômage, donc le double. Par ailleurs, on sait qu'il y a des discriminations sur le marché du logement qui fait que les gens qui sont de ces minorités n'arrivent pas forcément à se loger où ils veulent, et en particulier là où sont les emplois, c'est-à-dire dans les villes. Donc c'est une question de loyer, mais c'est aussi une question situation de manque de fluidité, de discrimination du marché du logement. Donc il y a tous ces aspects-là qui interagissent, et ça implique, je pense, de prévoir un petit peu les difficultés de la tertiarisation. Enfin, on les a déjà, en fait, en réalité, mais elles ne vont faire que s'aggraver, et de lutter à la fois contre les discriminations de façon peut-être légale, mais aussi par un travail sur la culture, sur la façon dont on peut insérer les minorités et les faire accepter, y compris dans les boulangeries traditionnelles françaises.
Ah bah c'est déjà depuis longtemps le cas dans certains quartiers parisiens.
Hein, probablement à Paris, mais il y a la campagne.
Pierre Velstein, on rentre vraiment dans votre problématique, à savoir celle de la territorialisation du problème du marché du travail, parce qu'en fait, vous montrez assez bien qu'il y a un recoupement net entre l'exclusion l'exclusion du marché du travail et puis la périphérie territoriale, les territoires de relégation. Il y a effectivement, comme le disait très bien déjà Attali, moi je me suis un petit peu moqué de lui sans le citer quand je parlais des nomades urbains dans mon chapeau, c'était lui un peu qui avait lancé ces expressions il y a déjà 20 ans, mais c'est vrai qu'Attali disait qu'il y aurait deux types de travailleurs dans l'avenir. Il y aurait ceux qui seraient extraordinairement mobiles, ces fameux nomades urbains surqualifiés, sautant de l'avion et interconnectés au monde entier, et puis il y aurait des gens qui seraient assignés à résidence autour d'un point d'eau, ou assignés à résidence parce que simplement les déplacements deviennent trop difficiles, trop chers, et que donc leur capacité d'accès à la fois à la consommation, mais même au travail, à la qualification, etc., va décroissant. Et donc on a bien là à faire, encore une fois, je reviens à mon image, au ciseau avec les deux lames qui s'écartent, parce que c'est cumulatif, cette exclusion.
Oui, c'est vrai que si on regarde le rapport à la mobilité, qui est essentiel dans notre société, on voit bien que je pense qu'en effet, le ciseau a tendance à s'écarter. Hein. Il y a d'un côté, parce que je trouve une jolie expression là que je sais plus qui m'a donné, c'est les élites cinétiques, vous voyez, les gens qui bougent, et puis les gens qui sont un peu condamnés à la non-mobilité ou alors à des mobilités un peu usantes, du genre de celles des gens des grandes villes qui sont obligés quand même de passer des journées en bagnole ou en métro dans des conditions assez difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Moi, je, par rapport à la discussion précédente sur la tertiarisation, je pense qu'on a tort de prendre toujours les exemples dans le domaine des services à la personne du genre femme de ménage, etc. Parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est tout ce qu'on voit dans le reste du monde n'est pas très encourageant. Il y a un marché mondial aujourd'hui vous avez cité les Philippines, hein, aller au Japon, enfin c'est le principal produit d'exportation des Philippines aujourd'hui, hein, c'est ces jeunes femmes qui vont dans le monde entier et ramener un peu de salaire à la maison. Donc je crois qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est dans les services, y compris les services à la personne, qu'on est forcément coupé de la mondialisation et ramené au territoire. Là j'aurai un petit point de désaccord avec Michel de Bonneuil. En revanche, je crois que l'idée de dire il faut qu'on passe à un régime dans lequel il y ait beaucoup de services, mais des services très qualifiés, qui ne soient pas seulement les services de type conseil aux entreprises ou high-tech, etc., mais autour de ces biens qui sont des biens collectifs essentiels, je dis collectifs parce qu'il y a une dimension collective, qui sont la mobilité, qui sont la santé, qui sont l'éducation et le loisir. C'est ça les secteurs qui poussent, mais il faudrait arrêter de considérer que ces secteurs, au fond, sont des espèces de secteurs qu'on subit parce qu'on ne peut pas faire autrement. La santé, à mes yeux, c'est... On parle toujours du trou de la sécurité sociale parce qu'il se trouve qu'elle n'est pas budgétisée, voilà, tout simplement. C'est comme l'éducation. C'est normal qu'une société riche, une société d'abondance comme la nôtre, vieillissante qui plus est, même indépendamment du vieillissement, consacre une part très importante et qui va continuer à croître de son PIB à la santé. Or, la santé, si on se décide à considérer que c'est vraiment un facteur de croissance, c'est pas seulement une espèce de charge qu'on devrait financer, je sais pas comment, et si on considère que c'est au cœur d'un modèle de croissance de la société, après tout, les nouveaux besoins, ils sont des besoins de bien-être et donc de santé au sens général du terme, c'est un secteur dans lequel on voit qu'il y a un potentiel formidable d'emplois qui sont pas seulement qui vont toute la gamme du très qualifié au peu qualifié, mais aussi avec beaucoup de secteurs de services intermédiaires. Je trouve qu'un pays devrait être jugé sur la façon dont il traite ses infirmières, ses infirmiers, ses aides-soignants. Voilà, ça c'est à mon avis un critère de civilisation et de savoir si on rentre dans la société tertiaire par le bon côté ou par le mauvais côté.
Michel de Bonneuil.
Oui, je voudrais dire que les services à la personne, ce n'est pas justement le particulier employeur, mais pas du tout. C'est justement la tentative d'industrialiser la production au domicile, comme je le disais tout à l'heure, en en faisant des solutions de vie, c'est-à-dire des produits pour des gens dont le niveau de vie est en moyenne élevé. Donc ça n'a effectivement rien à voir avec ce que tous les gens qui n'écoutent pas en réalité veulent croire. Hein. Ce n'est pas ça, c'est précisément pour sortir de cela. Et je voudrais dire pourquoi on peut en sortir, c'est parce qu'aujourd'hui, le service est devenu productif. Autrefois, il ne l'était pas parce que la productivité était de vitesse. Donc, elle était réservée aux biens dans l'industrie. Le service était second. Il était obligé de prélever sur les gains de productivité dans l'industrie pour payer tous les ans un peu plus cher les médecins, les instituteurs, les services sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Le service n'est pas un bien, ça reste très différent, mais aujourd'hui, le service est candidat à la productivité parce que les gains de productivité sont de qualité. Et donc, le service va devenir productif et en plus, c'est pas parce qu'on va faire du service productif qu'on abandonne l'industrie, puisque on va sauver l'industrie en intégrant les biens dans des solutions.
Michel de Bonneuil, on trouvera un développement de ce que vous venez de dire dans votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'espoir économique vers la révolution du quaternaire chez Bourin. Merci Pierre Veltz, vous êtes l'auteur de Le Nouveau Monde Industriel qui est réédité, et puis surtout La Grande Transition, la France dans le monde qui vient de sortir au seuil. Étienne Vassemer, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po et chercheur à l'OFCE. Vous avez un blog où on peut vous lire. Pierre Concialdi, vous avez sorti l'année dernière Non à la précarité chez Mango.
Demain, rendez-vous à 17h, on reviendra sur l'affaire de Lille, le jugement de Lille sur l'annulation du mariage civil. Ce sera avec Maître Eolas, un fameux blogueur, avocat au barreau de Paris, Caroline Fourès, journaliste notamment à Charlie Hebdo, rédactrice en chef de Prochois, Sarah Megboul au téléphone, qui est psychologue, criminologue et qui a donné un papier aujourd'hui même dans La Croix, les spécialistes de toute la question des mariages forcés, et Laure Hénique-Luiget, qui est avocate au barreau de Paris. Réalisation Thomas Duterre, à la technique Vincent René, équipe de production Mathieu Sarda, Nathalie L'Empereur, Francesca Fossati.
17h55 sur France Culture, l'heure de retrouver Albert Jacquard, les informations, et puis Jean Lebrun aujourd'hui en direct et en public du Café El Sour, Faire Saint-Germain. Il vous parlera de l'apocalypse du christianisme à l'islam.
La panoplie des moyens de destruction disponibles est tellement étendue qu'il est illusoire de chercher à décrire un scénario vraisemblable pour une guerre à venir. Si la catastrophe se produit, la réalité sera de toute façon bien pire que ce que l'on peut imaginer. La dernière guerre, la Seconde Guerre mondiale, s'est terminée, on peut le dire, sur une apothéose, l'apothéose des techniciens. Mis sur la piste des secrets du cosmos par quelques théoriciens et au premier rang Albert Einstein, ces techniciens ont été capables de se rendre maîtres des plus puissantes forces de la nature. Parmi ces forces qui étaient déchaînées souvent dans la nature, la foudre était la plus menaçante. Elle nous mettait au contact des enfers. Souvenez-vous des Grecs, pour qui la foudre n'était soumise qu'à un seul dieu, le dieu des dieux, Zeus. Et le seul, il détenait le pouvoir sans égal de manipuler la foudre. Aujourd'hui, le moindre chef d'État, le moindre animateur d'une secte terroriste peut menacer de destruction l'humanité entière. Il lui suffit de brandir les millions d'éclairs produits pour lui par ses installations nucléaires, ou bien qu'il a acheté chez les preuves qui peuvent maîtriser ses forces. L'accès à ce pouvoir métamorphose complètement le statut de notre espèce. Les humains devaient se contenter d'observer, presque passivement, le jeu de ces forces. Qu'ils les regardent comme naturelles ou comme divines, ils savent désormais les soumettre à leur volonté. Aujourd'hui, il s'agit de substituer le pouvoir humain au pouvoir des choses ou au pouvoir des dieux. Ils ne sont plus seulement les humains ceux qui subissent les décisions venues de l'Olympe. En fait, l'Olympe, ils l'ont escaladé, ils n'y ont rencontré qu'eux-mêmes. Et pour reprendre la métaphore de la Bible, ils ont goûté le fruit de la connaissance, et ils lui ont trouvé bon goût. Une autre image, plus proche des réalités physiques, est celle de la surfusion de l'eau. Regardons un lac au repos sous un ciel calme. Lorsque la température diminue, lentement, son eau reste liquide. À 0 degré, si rien ne bouge, l'eau reste encore liquide. de même lorsqu'elle descend à moins 1 ou même à moins 2 degrés. Mais alors, il suffit de la moindre secousse pour que d'un seul coup, la totalité du lac se transforme en glace, événement qui bouleverse toutes les interactions entre les molécules qui constituent ce lac. Tout d'un coup, l'objet qu'est ce lac a changé de nature, bien que tous ses atomes soient restés identiques. Eh bien, l'humanité vient de connaître, sans en avoir pleine conscience, un phénomène semblable. Son état est aussi différent de celui d'il y a un demi-siècle que l'eau est différente de la glace. Cela est vrai pour la communauté humaine et c'est vrai pour chacun de ses membres.
Minuit 10, saison 2.
Tous les soirs, sur France Culture en direct à minuit 10.
C'est minuit 10.
L'émission exactement ça des pratiques urbaines parce que contemporaines ce soir, émission Cultures urbaines.
Alors c'est très simple, chaque soir de la semaine à minuit 10.
C'est minuit 10.
À retrouver sur Radio France.
Demain sur France Info, dès 7h.
Où en est la Chine?
Un mois après le séisme.
Deux mois avant les JO.
Vivez l'information en direct de Pékin.
Sur France Info.
Et France-info.com.
Demain sur France Musique à 16h.
Concerts éphémères.
Marc Dumont vous proposera un concert de musique de chambre enregistré en mai à la Maison de Radio France.
Éric Tanguy et Schubert par les musiciens de l'Orchestre National de France avec la violoncelliste Anne Gastinel.
Plus d'informations sur francemusique.com.
Demain, dès 18h50, c'est le Drive Time dans le Move.
Maxime vous fait découvrir le J-Rock.
Le meilleur de la scène rock japonaise.
Tous les artistes incontournables à l'autre bout de la planète sont à l'honneur dans la Maxbox.
Et sur lemove.com.
Radio France,
on ne se quitte plus. Voilà.